et assassin aussi, parce que tu es avec moi, complice même. Vous ne m'avez pas embêté, provoqué en me disant constamment ces choses. Je n'aurais peut-être pas fait. C'est toi le coupable, car tu me parles constamment de ça. Et en m'en parlant, tu me donnes envie de le faire. Une personne qui aime les choux à la crème, si on en parle constamment, il aura constamment envie d'en manger. Fous-moi la paix. Maintenant, je suis rassasié. Je suis bien content que tu aies oublié de lui prendre son argent. Tu es puni. Idiot, je vais être obligé d'en tuer une autre maintenant. Et ceci par ta faute. Tu m'avais prévenu de lui prendre son argent, je ne serais pas obligé d'en tuer une autre. Ah non alors, je te laissais pas faire ça. Il faut bien que je mange. Comment faire autrement? Et si nous ne mangeons pas, toi aussi, tu vas avoir faim. Et tu seras prêt tout pour manger. Sûrement pas pour tuer. Peut-être bien. Mais aller faire la pute chez papa et maman. Ne dis pas de bêtises, j'ai plus de parents. Moi, oui. Eh bien, tu ferais bien d'aller les retrouver. Sûrement pas. Tais-toi, j'en vois une. Cherche toujours en vain d'entrer en contact avec le mercier. Mais non, rien du tout. Le clerc, d'après ses proches, semble être devenu fou et parle tout seul. On l'a retrouvé dans la rue, abruti. On l'a mis en examen à Vinatier. À Paris, le mercier continue sa vie de paria et de tueur. Les journaux, la télévision, la radio l'appellent le tueur solitaire. Les anarchistes l'idéalisent et en font un militant qui tue la bourgeoise pour rester libre. Il est seul contre la société. Voilà un vrai anarch. La victime, c'est lui, parce qu'il est traqué par tous. Vous devez l'aider. Il ne faut pas que la police le prenne. Il est le symbole vivant de la lutte contre la société. Alors, avec les anards, la gauche caviar, les intellos de gauche en font un anard, un libérateur. Libération en fait un saint. Que ces crimes, c'est la lutte des pouvoirs gauche-droite, etc., etc. Les femmes n'osent plus sortir le soir. Les femmes n'osent plus sortir le soir. Les femmes intello rêvent d'être accostées par cet homme. Elles leur diront leur amour pour lui et qu'elles sont avec lui. Que c'est bien de tuer la bourgeoise, comme si elle ne l'était pas à profusion jusqu'au bout des ongles. Mais la bourgeoisie de gauche ne se dit pas bourgeoise, même si elle baigne dans l'argent et les bijoux. Et puis pour elle, c'est normal, car elle vit richement, mais en pensant aux pauvres. Il y a nuance avec celle qui ne pense jamais aux autres, non? La police ne sait plus quoi faire. Si elle le prend, elle risque de se faire traiter de CRS-SS. Pour Libération et toute la gauche, si elle ne l'attrape pas, la gauche va crier qu'il n'y a pas de sécurité, que la police ne fait rien. Les avocats, la justice, ce n'est pas le même problème. Il y en a un pour la défense et l'autre pour la sanction. eux ont trouvé la bonne solution. Mais malheureusement, lorsque tous les avocats sont de gauche, il n'y a plus de sanctions, plus de justice. Les coupables deviennent victimes et les victimes coupables. Mais pour le moment, il n'y a aucune piste pour avoir ce fameux tueur. Leclerc, une fois qu'on lui a fait ses examens, se trouve seul dans sa chambre. Il fait nuit. Il n'a pas sommeil. Tout ce qu'on lui a fait l'a excité et même donné envie d'entendre le cri. La petite veilleuse qui est au plafond l'énerve. Il décide de se lever. C'est ce qu'il fait. Il est en pyjama, pieds nus. La fraîcheur du carrelage lui fait du bien. Il sort de sa chambre. Un long couloir, personne. Il doit être tous ou couché, ou c'est trop tôt ou c'est trop tard. Il longe le couloir. Une porte vitrée qui donne sur le parc. Il l'ouvre. Elle n'était pas fermée à cause des urgences. Suit le parc. Arrive vers un portail. Là, il est fermé. Que faire? Il ne sait pas. Il ne sait rien du tout. Enfin, il cherche. Il longe le mur. Voit qu'il y a contre le mur, un peu plus loin, une cabane dont le toit est presque à la hauteur du mur. Contre cette cabane, il y a une table et un banc. Il met le banc sur la table, monte sur le banc en tirant sur ses bras, il attrape le chenot du toit. Et avec un effort, il se hisse au toit et une fois sur le toit, monte sur le mur. Et là, en fermant les yeux, il saute. Il se retrouve couché à terre, à moitié assommé, mais vivant. Après une seconde, il se relève, un peu abruti, mais libre, et quitte la rue en courant. Cette huile le rend heureux. Il se sent vraiment libre. Plus de femmes, d'enfants, de travail. Il peut faire ce qu'il veut. Des cris horribles envahissent son corps d'allégresse. Mais au bout d'un moment, il se rend compte qu'il est en pyjama et sans argent. La liberté, peut-être que c'est bien, mais il faut rester invisible et anonyme. Donc il faut qu'il paraisse comme tout le monde, avec des vêtements et un peu d'argent. Comment avoir tout ça? Il n'a qu'une solution, voler. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Il se dit, la première personne qui passe, hop, je lui saute dessus et je le vole. et il s'est mis en marche pour trouver sa proie. En passant dans une rue déserte, il voit arriver une femme grande, mince, en tailleur rouge, et petit chapeau. Il se dit, voilà une bonne rencontre, j'aurai les deux. Elle entre dans l'allée, lui la suivit. Allée de vieil immeuble. Elle a entendu entrer, elle se retourne et lui crie. Vous n'allez pas tout de même pas me violer. Je suis une jeune fille. Mais non, je ne cherche pas à vous violer. Ah, et que faites-vous en pyjama comme un sadique de quartier? Il s'approche d'elle et lui dit, je veux simplement entendre votre cri.
Mon cri?
Oui. Il lui tire les cheveux pour la renverser en arrière.
Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Aïe!
Elle essaye de se débattre, mais il la maintient de tout son corps.
Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous voulez?
Vous voir crier.
Et qu'est-ce que vous voulez?
Vous voir crier. Allez, ça fait du bien. Criez. C'est bon, hein? Ça fait du bien, hein? Allez, vas-y la vieille. Crie. Crie la vieille. Il bande. Elle le sent. Vas-y. Elle voit s'approcher de sa gorge une lame de couteau. Il jouit. Le cri s'est arrêté net.
Il la lâche. Elle est tombée à terre comme un pantin.
Souffle un peu. Le Mercier a joui en même temps à Paris, mais en rêvant à tout ça. Vite, il déshabille la femme. La veste, la jupe, le chemisier, les bas. Il fait la grimace, met des bas si près de la peau, cela le dégoûte. Les chaussures, heureusement que c'est des talons plats. Il quitte son pyjama, s'habille le plus vite possible. Le plus dur, c'est mettre les bas. Ça sert. Prend le chapeau, le met, le sac à main rouge, l'ouvre. Il y a 500 francs, un peu de pièces de monnaie. Un mouchoir, carte d'identité, du rouge à lèvres, de la poudre et une paire de lunettes noires. Il se met de la poudre, du rouge à lèvres, des lunettes, le chapeau.
dois ressembler à une vieille femme. Les chaussures me font un peu mal, mais ça peut aller.
Et il sort de l'allée. Et il décide de quitter Lyon.
Je dois sûrement être recherché.
Il se dirige vers la gare de Perrache pour prendre un billet pour aller à Paris. Une grande ville, c'est mieux pour se cacher. La gare est noire de monde, de voyageurs et aussi de clodos. Les voyageurs essayent de partir entre deux grèves. Il va au guichet demander un billet pour Paris. Le guichetier lui dit « Pour Paris, il n'y a plus de TGV. Il va falloir que vous preniez un train jusqu'à Mâcon. Après, vous prendrez un autre qui fait Genève-Paris. C'est un train suisse. Comme ils ne font pas grève, vous pourrez arriver jusqu'à Paris. » Le départ pour Mâcon est à 8h30, quai 3 Sud. Quelle classe? Deuxième. 300 francs. Voilà. Merci. Il va vers le quai 3. Il y a déjà du monde sur le quai et il attend. Demi-heure d'attente, le train est arrivé, conduit par l'armée, car les autres trains sont tenus par les grévistes. Il entre dans un wagon, deuxième classe, avec compartiment comme avant. S'assoit près de la fenêtre. Entre dans le compartiment un grand homme, grand, mince, cheveux gris, costume beige. S'assoit en face de lui.
Accroche-toi, papa!
Vous avez Madame.
Merci.
Il lui sourit.
Dans combien de temps?
Est-ce que ça vous gêne si je me mets en face de vous?
Non, monsieur, pas du tout.
Je m'appelle Christian Legrand.
Moi, c'est Amélie Antoinette.
Quel nom charmant. Vous allez à Paris? Oui.
Et si je travaille mal?
Dans quel but?
Mal, et si tu fais ça,
me reposer, comme ça.
Attention, Alphonse. Salut, Alphonse.
Salut, papa.
Moi aussi, je vais à Paris, mais pour affaires. Je vends des couverts en porcelaine fine.
Très intéressant.
Et vous, votre travail ? Je vends des couteaux. Ah, oui. Ils arrivent à Mâcon, changent de train et restent ensemble. Il y a très peu de monde dans le train. Ils sont encore dans un compartiment pour eux tout seuls. L'homme continue à la draguer ou le draguer. Il se laisse faire. L'homme lui met la main sur la cuisse et lui dit « Vous avez de très jolies jambes. »«
Merci. »
Il monte la main tout doucement et lui dit « Chut, on peut nous voir. Allons dans les toilettes. » Elle se lève, il la suit, sort du compartiment et elle entre dans les toilettes. Une seconde plus tard, il entre et ferme la porte avec le verrou. On entend le bruit du train qui est insupportable. Elle lui sourit, s'approche de lui, se plaque contre lui. Et il sent entrer dans son ventre une lame. Il recule, trop tard, tombe à la renverse. Vite, elle le déshabille. Et ce n'est pas facile dans le train qui bouge tout le temps. Le peu de place et se mord tout mou. Enfin, le travail, c'est le travail. Il faut ce qu'il faut. Il lui enlève sa veste, son pantalon, ses chaussures. La chemise, elle est trouée. Ça ne vaut pas la peine. Mais la cravate, oui. Son chemisé, oui. Il se déshabille en vitesse. Il se rhabille. Les vêtements sont un peu amples, mais ça pourra aller. La cravate sur le chemisier donne un côté mode très parisien. Les chaussures sont un peu grandes. Il s'enlève le maquillage. Regarde dans le portefeuille des cartes de crédit, identité, 1000 francs de billets et quelques photos intimes, rien. Précautionneusement, il sort des toilettes et s'éloigne. Il va chercher un autre wagon un peu plus loin. Il trouve une place assise à côté d'une vieille femme. Le train s'est arrêté à une gare. Il est sorti du train et va demander au guichet. Le prochain train pour Paris, s'il vous plaît.
Vous pouvez encore prendre celui-là? Non, parce que j'attends quelqu'un. Alors dans 2 heures.
Merci.
Il va s'arrêter à la salle d'attente. Là, il trouve sur un siège un Paris Match. En première page, la photographie de Galien Diap. Dessus est marqué le maître de la biotechnique, M. Galien Diap. Ce dieu du 21e siècle est capable de transformer toutes les espèces du monde à sa convenance, même les humains. Ce jeune dieu, d'une vingtaine d'années, rend terne et démodé Bill Gates. Il lit l'article en première page. Ce jeune homme devient l'homme le plus puissant du monde. Avec ses laboratoires ultra modernes, il transforme les plantes, les animaux, fait des essais pour guérir des maladies jusqu'ici inguérissables. Les animaux vont faire des médicaments pour les humains. Des légumes vont manger des insectes, plus besoin d'insecticides. On dit qu'il peut transformer les hommes,
mettre le cerveau d'un homme dans un autre. Les laboratoires
recherche des cow-boys. Pour en savoir plus sur la biotechnique, téléphonez au 04 78 39 12 15.
Sois gentil avec les petites filles. Hein.
Le clerc se dit, ça peut servir. Il prend l'hebdomadaire et le met dans sa poche.
Il y a un wagon restaurant ?
Le wagon restaurant est en tête du train.
Salut Alphonse !
Tu vois, il part bientôt, le train ?
Enfin, le train pour Paris est arrivé. Il l'a pris et cette fois, s'assoit et s'endort tout le long du trajet. Il arrive à Paris dans la nuit. Là, il ne sait où aller. Il n'a que 1000 francs en poche. C'est peu. Alors il décide de passer la nuit dans la salle d'attente. Demain, il verra. Il passe la nuit, mais sans trop dormir. À cause des clochards qui font du bruit, des haut-parleurs, des trains. Enfin, le matin est là. Il s'achète un rangeoir dans un magasin près de la gare, va dans les toilettes publiques pour se ranger un peu. Il va dans un café prendre le petit déjeuner. Il sent l'hebdomadaire dans sa poche. Le sort, il se vient de la bibliothèque.
Madame,
on recherche des cow-boys.
Appelle-la toi si tu veux, moi je vais
changer
de physique. De toute façon, ça sert à rien.
Une nouvelle identité.
Madame, s'il vous plaît.
Oui, ça peut être intéressant.
J'ai l'impression que le temps passe à une vitesse aujourd'hui.
Tu as l'air énervé.
J'ai l'air fatigué.
Vers les 9h30, il décide de leur téléphoner dans une cabine publique de rue. Allô ? Biotechnique ?
Vous, vous êtes bien au groupe Biotechnique Jeune Tout. Attendez un instant, on va prendre votre appel. Allô ? Biotechnique Jeune Tout, je vous écoute.
Bonjour mademoiselle. C'est au sujet de l'article dans Paris Match. Je serais très intéressé pour devenir cow-boy.
Les journalistes sont allés un peu loin. Nous ne recherchons pas des cow-boys, mais seulement des gens qui peuvent vous aider à faire des essais.
Je suis prêt.
Bien, monsieur. Votre nom ?
Monsieur Dutour Laurent.
Adresse ?
Je viens de débarquer à Paris, j'en ai pas.
Très bien, très bien. Ça va.
Famille ? Je vis seul.
Bien, bien, ça va, très bien. Écoutez, vous pouvez venir cet après-midi, si ce n'est pas trop tôt, à 15h. 15 place de l'Étoile, porte droite, 5e étage, bureau, 6553. 6553, 15 place de l'Étoile, porte droite, 5e étage, bureau, 6553.
Bien, madame, j'y serai.
Et il sort de la cabine téléphonique.
Et à 15h, il est entré dans le siège du groupe Je le Tout.
Une hôtesse en taillard rouge va vers lui et lui demande :
Vous désirez, monsieur ?
J'ai rendez-vous au 5e étage, A, bureau 653. Je suis monsieur Dutour Laurent.
Je vais voir, monsieur.
Elle s'éloigne pour aller vers un ordinateur et taper.
Elle revient vers lui.
Oui, monsieur, l'on vous entend. Veuillez me suivre.
Elle le mène vers l'ascenseur A.
Il entre dans l'ascenseur. Et sort de l'ascenseur.
Il se trouve dans un grand couloir avec plein de portes et des numéros dessus. Il cherche la porte 653.
trouve la porte 653. Entrez. Il entre. C'est une salle d'attente. Un disque lui dit : asseyez-vous, on va venir vous prendre. Merci. Il s'assoit. Et attend. La salle d'attente est claire, meublée de meubles de verre, très moderne et très propre. Une porte s'ouvre. Une femme en tailleur rouge, grande, brune, va vers lui. Vous êtes monsieur Dutour-Laurent et vous avez téléphoné pour accepter de nous aider dans nos recherches. Il lui dirait : oui, mademoiselle, pour être cow-boy. Elle lui dit : on ne dit jamais cow-boy. Ici, ce mot est tabou. Bien, monsieur, veuillez me suivre. Il se lève et la suit. Elle frappe à une porte. Entrez, monsieur. Il entre. C'est un bureau avec un homme grand, fort, châtain à lunettes métal dans les 40 ans, costume gris. Le bureau est vaste, moderne. L'homme se soulève de son siège et lui dit : asseyez-vous, monsieur. Il va s'asseoir. L'homme lui dit : je suis le chef des relations humaines des coopérants extérieurs à nos recherches. Je m'appelle monsieur Genevois. Je vais vous poser quelques questions sur vous, puisque vous avez fait la demande de coopérer. Je tiens à vous dire, c'est que nous faisons une sélection très poussée à cause de la très grande demande. Due, bien entendu, au chômage, des gens sont capables de vendre tous leurs organes pour une bouchée de pain. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons des gens qui viennent à nous parce qu'ils croient à la biotechnique, pour l'amour de la science et non pour une simple histoire d'argent. Bien sûr, nous allons faire beaucoup d'argent grâce à ces recherches. Mais vous allez y gagner surtout en connaissance, fierté d'avoir aidé le groupe Jeune Tout à aller de l'avant. Vous vous direz avec fierté : sans moi, Jeune Tout n'aurait pas donné la vue à des milliers de gens. Sans mon don des yeux, il n'aurait pas pu faire des expériences. Le clerc lui dit : alors, vous demandez des organes ? Non, nous n'en demandons pas. C'est vous qui allez nous en proposer. Ce n'est pas la même chose. Le clerc lui dit : j'ai appris qu'un cerveau pouvait aller dans un autre corps. Est-ce vrai ? Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.